101.5 FM.
Retrouvez toute l'équipe de l'émission Tendance à me plaire, un mardi sur deux de 19h à 20h sur Radio G.
Ensemble, nous parlons de tendance, de mode, de coups de cœur, d'actualité, dans divers univers.
Le cinéma, les nouvelles technologies, la santé, la sexualité, le végétal, le tout, en compagnie d'invités innovants et étonnants.
Tendance à me plaire, c'est un mardi sur deux à 19h sur Radio G.
Et à tout moment, en podcast et sur les réseaux sociaux.
Tendance à me plaire.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tendance à me plaire, épisode 10 de la 12e saison. Vous nous écoutez sur Radio G, sur Fréquence Zik ou bien en podcast, un podcast disponible notamment sur le site de Radio G, sur Deezer et Spotify. Alors dans chaque émission, nous abordons un thème différent à chaque fois, un thème que nous déclinons souvent à l'infini. Et aujourd'hui, on vous parle du monde de la boulangerie. Alors on a tous une histoire, des anecdotes, des souvenirs liés à sa boulangerie, que ce soit celle de notre enfance, celle chez qui on va tous les jours, celle qu'on déteste aussi parfois, pour n'importe quelle raison, car en bon franchouillard, on adore râler. Bref, on a tous notre avis sur la question. On va donc parler de l'histoire de la boulangerie. On se demandera pourquoi cette tradition française est si culturelle avec Monsieur Kiosk. Nos invités sont propriétaires d'une boulangerie angevine et ils nous raconteront leur participation au concours télé La meilleure boulangerie de France. Soso répondra à toutes vos questions sur la boulangerie et la pâtisserie dans la Soso Touch. Olivier, quant à lui, nous parlera de le pain. Alors pardon, de Lupin. Un jeu de mots. La nouvelle série qui cartonne sur Netflix. Et puis nous aurons d'autres chroniques avec des animateurs qui feront du hors-piste. Caro avec des questions autour de la mode et Bruno pour sa chronique C'était mieux avec. Alors vous allez voir, on vous a concocté des jingles spéciaux. Et on va commencer avec celui qui appellerait sa boulangerie Boulémie de Villepin la mi-journée. Super. Donc vous l'avez reconnu. C'est notre spécialiste en jeu de mots. Voici Bruno avec son édito.
Obligé.
Ah, c'est à moi. Eh bien, on poursuit donc ce soir notre super liste d'invités avec, après les chasseurs de fantômes, l'agence de rencontres, la joueuse de Lego. Attention, événement, hein, on reçoit un boulanger. Mais Raphaël, mais où vas-tu chercher tout ça? Non, mais c'est dingue ça, hein. Bon, alors par contre, hein, ce n'est pas n'importe quel boulanger, hein. C'est celui de sa rue. Ah bah oui, là tout de suite, on comprend mieux, hein. Déjà qu'on se tape les stories de vidéos de sa rue tous les soirs sur Insta. Maintenant, on va voir tous les commerçants de la rue. Hein, puis il y en a un paquet. Hein, on va pouvoir finir la saison comme ça, c'est cool. Hein. Mais ça, c'est le Covid. Non, mais ça, c'est le Covid. Hein. On n'a plus le droit de sortir. Hein, et on n'a pas le droit de trop s'éloigner. Alors là, ben voilà, il va au plus près. Hein. Je pense que bientôt, on va avoir ses voisins en invité. Bon, par contre, OK, le boulanger qu'on reçoit est passé à la télé. Et là, c'est le passeport pour faire tendance à me plaire. C'est soit vous êtes dans Angers ma ville, hein, ou soit vous passez à la télé. Bon après, je ne vais pas me plaindre. Hein. Avec le thème de la boulangerie, c'est du pain béni pour une chronique.
Ah hein, bah oui.
Ça permet de gagner. Eh oui, ça permet de gagner mon pain sans avoir trop de pain sur la planche. Ça ne mange pas de pain. Eh oui. En plus, je bosse pour une bouchée de pain. Je ne suis pas trop gourmand. Hein, je ne mange pas de ce pain-là. Bon alors. J'ai encore moins de mérite du coup, puisque c'est pas la première fournée. On a déjà reçu des boulangers. Hein, ça se reproduit comme des petits pains. Du coup, je me fais un peu de blé avec des idées déjà germées. Hein. Mauvaise graine que je suis, je recycle donc mes chroniques. Alors j'espère ne pas avoir semé le trouble en dévoilant mon arrière-boutique, mais certains devraient en prendre de la graine hein, pour rouler Raphaël dans la farine. Oui, je sais, Raphaël, là j'ai tout dit, hein, j'ai un petit peu mangé mon pain blanc, alors tu m'ôtes le pain de la bouche. Mais bon, si c'est toi qui écris mon édito, ça va être compliqué. Hein. Je te rappelle que l'année dernière, on a fini avec la blague du commissaire. Hein.
Oh non.
Non, 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 Raphaël, non, 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 on ne la refait pas. Comment ça? Tu en as une nouvelle? Sur la boulangerie?
Non.
Ah non, 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 je crois pas que ce soit une bonne idée, Raphaël, non, 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 non. Hein? Oui, t'es le patron, oui, je sais, mais... Bon, d'accord, bah, vas-y, passe-moi ta fiche. Alors attention, voici la blague de Raphaël sur la boulangerie. Quel est le comble du boulanger ? Alors, plus il a de brioche, moins on voit sa baguette.
Oh,
et voilà.
Je ne valide pas. Non.
C'est merci, horrible. Merci Raphaël. Effectivement, ça relève le niveau. Et effectivement. Et comment ça ? Une autre ? Ah non, je ne sais pas si c'est indispensable, Raphaël.
Allez.
Hein ? Une autre. Ok. Bon, alors voyons, on fasse mal l'affiche. Alors, Dark Vador entre dans une boulangerie. La boulangère lui dit. Bonjour, maître Vador. Alors, 3 pains et 2 tartes tatin ? Mais comment avez-vous deviné ? Bah, c'est simple, parce que pain, tartatin, tartatin.
Ah, c'est là,
les gars.
Oh là là.
Oh la vache.
Oh, c'est là, il me plaît.
Ouais, bon. On va arrêter. Non. Alors, tiens, bah, pour terminer, allez, un dernier jeu de mots. Bonne émission, les copains.
Oh,
joli.
Bravo.
Merci Bruno, alors vous pouvez réagir à cet édito et à ces blagues hein, si vous avez envie, à tout moment via nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Alors ce soir on parle de boulangerie à l'occasion de la venue de nos invités que l'on accueillera tout à l'heure, mais avant, on vous propose un peu d'histoire avec Monsieur Kiosque qui s'est posé une question: pourquoi est-ce si ancré dans notre tradition culturelle le pain ? Alors lui, s'il avait une boulangerie, il l'appellerait le kiosque à baguettes. Voici Pierre Benoît.
Une miette de pain, c'est pas bien gros, c'est pas bien gras pour ton estomac.
Alors le mot pain vient du vieux français pain, qui est un dérivé de panem en latin qui signifie pain. En gros, c'est l'action de faire lever une patte, comme les chiens qui font pipi.
Non.
Pour l'histoire du pain, tout remonte à l'Égypte, à l'époque des pharaons et des momies. Les Égyptiens mélangeaient déjà des graines de céréales écrasées avec l'eau du Nil pour obtenir une espèce de galette. Ensuite, en Mésopotamie, autour de la Palestine, ce même genre de galette faisait fureur. Et c'est certainement ce qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui une pita, comme dans les kebabs. Pour ce qui est du pain, dans le format comme on le consomme désormais, ce sont les Grecs qui ont eu la bonne idée de rajouter des levures de vin, qui venaient de leurs amphores, dans lesquelles ils faisaient pétrir le pain dans leurs amphores, au mélange, ce qui a permis à la pâte, du coup, de se lever. La recette s'est diffusée aux Romains, qui distribuaient cet aliment peu coûteux à produire aux plus pauvres. Dès lors, le pain est définitivement entré dans la culture culinaire européenne. Au Moyen-Âge, le pain est autant consommé par les petites gens que par les braves et nobles chevaliers et barons de ces hautes cours. Sauf que ces derniers s'en servent d'assiettes pour déposer leur viande et autres victuailles. On appelait ça alors un tranchoir. Merci Jamy. La question que tout le monde se pose alors, c'est pourquoi le pain est associé à la France en particulier ? Pourquoi on imagine baguette et France ? Eh bien, pour 3 raisons. La première, la deuxième et la troisième. Et j'espère que vous avez apprécié cette chronique qui n'est pas finie, c'est une blague. La première, c'est peut-être historique. Car le pain, c'est l'aliment universel du peuple. Facile d'accès, peu coûteux comme les Romains, comme on l'a dit tout à l'heure avec les Romains, et rapide de fabrication. Mais lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a une météo incertaine, de mauvaises récoltes, ou que l'économie vacille, eh ben c'est souvent la production de blé qui en pâtit, donc le pain et son manque. Et du coup, le manque de pain se transforme en enjeu politique. Or, les mauvaises récoltes de blé de 1788 vont aggraver les tensions sociales en France et participer à des événements, vous savez, un an plus tard, en 1789. D'ailleurs, certains historiens disent même que les émeutiers du 14 juillet étaient persuadés de trouver du blé dans l'enceinte de la Bastille. Deuxième raison, les Français sont de très très gros consommateurs de pain actuellement, hein, avec une production moyenne de 320 baguettes par seconde. Et enfin, troisième et dernière raison, c'est surtout un cliché. Hein, on connaît tous cette image d'Épinal du Français vu par l'extérieur avec le béret, la marinière et bah, la baguette de pain, hein, qui est le produit culinaire typique de la France derrière le vin et le fromage. Pour conclure, il faut quand même savoir que la production industrielle du pain, depuis les années 50, a diminué la qualité de celui-ci avec de nouvelles méthodes, de nouveaux produits, la baisse de la qualité des produits, du blé aussi. Et que la hausse du niveau de vie à reléguer la baguette au second plan des aliments sur la table. Cependant, les traditions refont surface et les boulangeries font figure de proue des nouveaux modes de consommation tournés vers le contact humain et le respect des bonnes choses. Dans un monde où tout se dématérialise, on aura toujours besoin d'un boulanger et d'une bonne baguette. Voilà.
Très bien. Et alors du coup, c'est ça l'origine aussi du mot copain, c'est-à-dire partager le pain?
Oui, copain, apparemment, c'est pendant la Première Guerre mondiale, hein, c'était le fait d'être compagnon de pain, un copain.
Bah merci Pierre-Benoît, c'était très intéressant, on a appris plein de choses avec toi.
C'est super.
Allez, on va enchaîner tout de suite avec nos invités boulangers.
C'est l'heure de l'invité.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe.
Je suis avec Muriel et Alexandre, propriétaires de Ma Petite Boulangerie, installée au cœur de la ville d'Angers, au pied de son château. Et si je suis ici, c'est pour présenter bien sûr cette boulangerie, mais aussi évoquer la participation de la boulangerie à l'émission télé de M6, La Meilleure Boulangerie de France. Alors, avant d'entendre Muriel et Alexandre, écoutons un extrait de cette émission avec la présentation de Ma Petite Boulangerie.
Troisième jour de road trip dans les Pays de la Loire, une région où se côtoient bonne chère, bon vin et jolie peau. C'est en plein cœur du centre-ville qu'on trouve la première boulangerie en lice, celle de Muriel et d'Alexandre.
Dans notre boulangerie, on est happy!
Et si ici on est si happy, c'est parce qu'on s'aime. Surtout eux, Muriel et Alexandre, les patrons.
Bisous! Ouais, oh, des bisous! Oh, des bisous!
Deux cœurs qui battent en permanence au même rythme à la ville, comme dans leur boulangerie.
On fait la vente ensemble, on prend les idées ensemble et...
Et on valide tout ensemble.
Voilà.
Coucou ma chérie.
Coucou. On va dire la même chose à deux moments différents sans s'être parlé.
Sans s'être parlé.
Et en fait, l'employé nous dit, mais vous l'avez déjà dit.
C'est ça.
Alors ça, c'est assez amusant.
Vous avez ouvert cette boulangerie en 2014. Racontez-nous votre parcours professionnel. Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir ce lieu à l'époque en 2014?
Alors bah déjà avant ça, on a passé à nos examens. On a eu notre expérience personnelle en tant qu'ouvrier, en tant que chef de labo, chacun de notre côté, en boulangerie et en pâtisserie. Ensuite, bah, on a eu l'opportunité de pouvoir... acheter ici à Ma Petite Boulangerie, rue Toussaint.
Alors, on a eu la chance que ce soit une entreprise qui était déjà axée un petit peu sur la boulangerie et on va dire sur le gâteau de voyage un petit peu. Et donc, c'est vrai que c'est une entreprise, nous, qui nous plaisait parce qu'on voyait bien que cette entreprise-là, elle demandait qu'à se développer. Donc, on en est venu à développer justement toute la gamme en viennoiserie dans un premier temps et à l'élargir justement maintenant avec la gamme de pain biologique donc, et des blés de population qui est le poulard donc, qui est un blé paysan en fait, c'est un blé de population donc, qui s'appelle aussi la pétanielle noire de Nice. Donc on a le blé corazan donc, qui lui nous est importé directement d'Égypte. On a aussi comment dire, le rouge de Morvan, donc c'est pareil, c'est un blé de population qui est dans la région justement un petit peu de Bourgogne. La tourte de seigle auvergnate. Après voilà, on aime bien justement être axé sur différentes typicités justement de farine et faire aussi ses compositions soi-même justement pour aider avec des farines pures. Donc ça c'est important parce que la boulangerie à la base c'est quand même un travail du boulanger de faire soi-même ses mélanges.
En fait, ce qui est aussi alors en dehors du pain, en fait ce qui est étonnant quand on arrive dans votre boulangerie, c'est la générosité. Il y a plein de choses, ça donne envie en tout cas, il y a plein de pâtisseries. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, des pâtisseries phares, les produits fétiches également de vos vitrines?
Bah déjà, en pâtisserie, on met en avant aussi le côté angevin, du coup, avec le Cointreau. Donc, on a notre éclair au Cointreau et le petit Queugnot. Le Queugnot, c'est un gâteau qu'on a revisité, un gâteau nantais qu'on a revisité au Cointreau. Mm-hmm. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est classique, qui fonctionne quand même plutôt bien. Gâteau de voyage, comme tu disais tout à l'heure. Mais on a pu aussi, avec les années... agrémenter la gamme en entremets. C'est vrai qu'il y a une belle évolution sur l'entremets, la glace. Donc voilà, toujours en se disant on fait nous-mêmes. Voilà.
Chocolat, oui.
On a une équipe qui est passée de 3 à 9, même 10 en ce moment.
On a un labo qui est ouvert sur la vente, et donc ce qui fait qu'on entend tout ce qui se passe de la part de la clientèle. Quand la clientèle nous parle d'une chose ou d'une chose, on se penche dessus, quoi. On est vraiment à l'écoute de notre clientèle.
Mais c'est vrai que ce qui nous a permis d'évoluer aussi, c'est d'avoir cette clientèle qui a évolué avec nous, en fait. On n'avait pas une clientèle de quartier quand on est arrivé. On avait beaucoup une clientèle de passage.
Exactement.
On se retrouve vraiment le petit commerce de proximité. On a pu en plus le constater en mars quand tout était fermé.
Et quelques...
C'était important d'être là.
Bien sûr. Alors, la semaine dernière, on a pu vous voir. Donc, on a pu voir votre boulangerie à la télévision dans l'émission de M6, La meilleure boulangerie de France. Alors, comment êtes-vous parvenu à participer à cette émission? Alors, est-ce qu'il y a eu des sélections? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Racontez-nous tout.
On a eu un premier appel d'M6. Donc, au début, on n'y croit pas trop. Donc, bon, on prend les décisions à deux. Donc, on a toujours. Voilà, on en a discuté ensemble et puis on s'est lancé
c'est
dans
ça.
La partie.
Au début, c'est quelque chose qui fait peur quand on n'est pas habitué à faire du concours, quand on n'est pas habitué à être sur le devant de la scène, on va dire. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Donc voilà, j'ai ma femme, j'ai mes filles. Et donc voilà, pour aussi leur rendre un petit peu de cette fierté qu'elles me donnent chaque jour.
Racontez-nous un peu les coulisses également. Quand est-ce que le tournage a eu lieu? Sur quelle journée exactement? Et comment vous vous êtes préparé à cette émission?
Ça date déjà de février 2020. Ils sont venus sur un matin. Avant ça, il y a eu quand même plusieurs mails de préparation, savoir les produits qu'on avait présentés.
Vous mettez d'accord avec la production?
Voilà.
C'est ça. On va dire que c'est la production, en fait, je dirais même, ils nous demandent le produit phare. Donc, et comme je disais, justement, je travaille avec des blés de population, je travaille avec des blés anciens. Et donc, moi, ce qui me plaît, justement, c'est de mettre à l'honneur, en fait, cette boulangerie-là. J'ai bien compris qu'ils voulaient autre chose. Donc, parce que c'était un meilleur ouvrier de France, que c'était Norbert Tarrère, chef de cuisine. Et donc, ils m'ont demandé si j'avais pas un pain aux fruits. Donc, du coup, je fais deux pains aux fruits en magasin, le médiéval depuis le début, et donc voilà, c'est ce pain-là en fait qu'ils ont retenu. C'est pas celui-là que j'aurais voulu mettre en avant, quoi. Malheureusement. Bon, après, voilà, ça s'est passé comme ça.
C'est impressionnant. Ils arrivent très, très tôt. Je peux être 6h30. Et puis, avec les caméras, ils sont. Et puis, dès le début, ils filment, quoi. Ils se posent pas de questions. Même pour l'équipe, c'était un côté sympa, je pense.
Ouais,
c'est quelque chose qu'on vit pas tous les jours.
Est-ce que vous aviez une épreuve que vous redoutiez le plus? Puisqu'on rappelle le principe de l'émission, il y a 4 épreuves.
Oui.
Est-ce que parmi celles-ci, par exemple, le défi, j'imagine que ça devait être...
Ouais, la petite anecdote.
Ça fait peur.
Le défi, non, je trouve que ça a été...
Moi, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus. Alexandre, qui est très créatif. Du coup, je l'ai un peu laissé faire parce qu'il a toujours plein d'imagination.
C'est vraiment pas cette épreuve qui m'a mis le plus en difficulté, on va dire. C'est vraiment le pain. La spécialité sur le pain, parce que je savais très bien qu'avec un pain comme ça, face à un meilleur ouvrier de France, j'avais aucune chance. Donc je le savais très bien. Mais à côté de ça, ouais, le défi, c'était...
Moi, je pense que c'est ce qui m'inquiétait le plus.
Alors le défi se déroule en entreprise. Ouais. On a 1h30 pour réaliser le défi. Donc c'est un temps extrêmement court pour avoir justement la créativité. Il faut faire la fabrication et la présentation. Et
l'anecdote, c'est que tu m'avais dit, j'en suis sûre qu'on aura cette recette-là.
Le cul de voile angevine.
Le cul de voile angevine. Et je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur le cul de voile angevine.
Donc j'avais une bonne intuition. Et donc je suis parti directement sur mon idée. Donc j'avais déjà quelques idées en fait préconçues. Bientôt, donc c'est un champignon, c'est un fouet en forme de champignon, en fait.
D'accord.
Tout simplement.
Et là, par exemple, pour cette épreuve, en fait, on vous l'a donné le jour même ou vous le saviez déjà?
Non, on ne le savait pas avant. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu de stress à gérer.
Mais... La journée où ils viennent, en fait, ils viennent vraiment que sur une journée. En plus, on était sur la première journée de tournage, mais de toute la saison.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est vrai que le caméraman et le gars qui était avec retrouvaient leur repère.
Ouais,
ils avaient des problèmes de piles sur les écouteurs, des choses comme ça. Mais toute la journée, elle est structurée en disant, là, on présente ce produit-là, il faut preniez de l'avance sur tel produit.
Exactement.
Et puis après, bah, ils nous disent, bon, bah, maintenant, c'est le défi, quoi. Mmh, c'est
le défi. Comment avez-vous pris les remarques, en fait, des membres du jury? Parce que j'imagine que ça ne doit pas faire toujours plaisir, peut-être. Ouais. Est-ce que, comment ça se passe, en fait, ces retours-là? Comment vous les avez pris?
Bah, déjà, vous gardez dans la tête que c'est quand même un meilleur ouvrier de France.
Ah, c'est un meilleur ouvrier de France. Donc, bah, forcément, il faut être un petit peu parfait partout. Il y a des choses, on a des points, comment dire, on a des points où on sait, où on est quand même bien placé. On va parler de la viennoiserie, on va parler de la brioche, on va parler de, comment dire, notamment justement les pains bio. On est quand même, on a quand même un beau travail, on va dire, de là-dessus. Il y a des points justement qui ont été un petit peu plus compliqués, mais bon, après voilà, faut s'y attendre. Hein, c'est sur la boutique. La boutique d'intérieur, on sait très bien que la boutique au niveau de l'intérieur, on a une belle boutique, peut-être un petit peu sombre, mais après voilà, ça manque d'éclairage.
Et on sait que
c'est ça. On sait que l'extérieur, bah, malheureusement, on est soumis aux monuments historiques. Et donc, voilà, je pense qu'à mon avis, là-dessus, ça a joué un petit peu au niveau de la note.
Très bien. Donc, pour conclure, une belle expérience, j'imagine, quand même. Est-ce que vous pourriez la refaire si on vous la proposait de nouveau?
Ah oui. Oui, oui, sans aucun problème. En mieux, forcément, mais il n'y a aucun problème. C'est, oui, c'est à refaire. C'est à refaire sans aucun souci. Hein. Donc, avec des belles rencontres, justement, avec Norbert Tarrère, hein, donc, qui est quelqu'un vraiment de très gentil. Et Bruno Cormeret aussi, meilleur ouvrier de France, donc comment dire, un respect vraiment assez énorme. Donc moi-même, voilà, plus tard, pourquoi pas penser justement au col bleu blanc rouge. Mais pour l'instant, voilà, ça reste dans un petit coin de ma tête. Mais pour des gens comme ça, oui, qui ont travaillé, qui ont mis 10 ans de leur vie quasiment en sursis pour faire ça, moi je leur dis chapeau.
Merci Muriel et Alexandre en tout cas. Et puis donc on vous invite vraiment à découvrir Ma Petite Boulangerie, rue Toussaint. À quel numéro exactement?
55.
Merci à vous deux.
Merci. Merci Radio G.
avec nous, puisque dans la suite de l'émission, vous retrouverez Bruno pour sa chronique « C'était mieux après ». Vous retrouverez la chronique mode et stylisme de notre Caroline. On parlera également de Lupin, la série qui cartonne sur Netflix. Mais on va continuer d'aborder le monde de la boulangerie avec toutes les questions que vous vous posez autour de ce thème avec Soso. Voici la Soso Touch.
Tendance à me plaire.
Bonsoir à tous. Alors, nous voici réunis à nouveau ce soir pour faire la lumière sur les questions qui vous taraudent. Et ce soir, nous allons coller au thème de nos invités puisque vos questions sont tournées sur la boulangerie. Alors, installez-vous confortablement. Je suis à votre écoute. Vous avez carte libre pour me poser toutes vos questions. Et promis, je vais faire de mieux, mieux pour y répondre. Allez, on commence avec la première question.
Alors, voici une question de Martine pour toi, Soso. On dit chocolatine ou pain au chocolat ?
Alors là, effectivement, merci Martine, on commence fort, hein, puisque cette question quand même déchaîne les passions, selon que l'on soit du Nord ou du Sud, hein, c'est un éternel débat. Alors, selon l'endroit où vous résidez en France, vous parlerez plutôt de pain au chocolat en allant vers le Nord-Est, ou bien plutôt de chocolatine, hein, si on se dirige vers le Sud-Ouest. Et puis, nos amis belges, eux, hein, ils vont faire la transition complètement, ils appellent ça des cookies au chocolat.
Ah ouais.
Exactement. Alors, vous l'aurez compris, que ce soit pain au chocolat, chocolatine ou même cookie au chocolat, ces trois termes désignent bien sûr hein, tous une même viennoiserie constituée d'une pâte levée feuilletée, identique à celle du croissant, mais au milieu, qu'est-ce qu'on a mis ? Une petite barre de chocolat pour faire un petit pain au chocolat. Et oui, voilà. Alors, ce soir, je ne vais pas lancer le débat. Il n'est pas question de départager ces appellations. Moi, je pense que le plus important, c'est de se régaler en les mangeant. Et puis, c'est tout.
C'est clair, voilà, c'est Martine. Trop beau, tu nous donnes faim. Merci Martine. Alors une question maintenant de Nono49. Faut-il mener les gens à la baguette pour gagner son pain ?
Oh. Eh bien, je me doutais que Nono poserait une telle question. Merci Nono. Alors, comme on dit, baguette tradition, baguette viennoise, baguette céréale, flûte ou bien ficelle. Notre baguette a de l'allure et elle est tendance et elle revêt bien des tenues. Alors, tout le monde connaît l'expression « mener les gens à la baguette ». Alors, cette expression, elle trouve son origine dans les boulangeries. Jadis, hein, les chefs boulangers se servaient de leurs baguettes pour commander leurs troupes. Plus de farine par-ci, moins sel par-là, mais plus énergique le pétrissage. Faites-moi un bon levain, que diable ! Enfin bon, vous l'aurez compris, hein, la baguette est ainsi devenue un symbole d'autorité. L'armée n'avait qu'à bien se tenir. Donc, plus votre baguette sera belle, appétissante, croustillante, alléchante, odorante, et plus, cher boulanger, vous allez gagner. Alors, nous comptons sur votre savoir-faire pour continuer à nous régaler et à faire durer cette belle tradition bien française que bon nombre de pays nous envient. Voilà Nono, j'espère avoir répondu à ta question.
Alors maintenant, une question de Victor hein, qui ose une question. Quel chroniqueur a les plus belles miches ?
Ah,
mon Dieu, non.
Oh, voilà une question qu'elle est bien croustillante. Et ça, je suis sûre que vous attendez ça avec impatience. Alors, quels sont les secrets de nos chroniqueurs pour avoir de si belles et bonnes miches ? Eh bien, je vais tout vous révéler. Hein. Alors, ouais. Je vais commencer par celle de Bruno. Alors, lui, il a plutôt des miches bien fermes. Hein. Son secret, c'est tout l'art du pétrissage. Hein. Il sait pétrir à merveille et ça lui fait des petites fesses, enfin des petites miches, pardon. Des petites miches, que dis-je, bien fermes. Et puis, tiens, on va continuer avec Raphaël. Alors, les siennes, je dirais qu'elles sont légèrement dorées. Rien de tel que des petits poulets en suvée pour les trouver, voilà, toutes appétissantes, dorées. Ça fait envie tout de suite, hein, n'est-ce pas ?
Mais alors, du coup, les miches pour les hommes, c'est les fesses, alors ?
Bah oui.
Pour les femmes, c'est les seins.
Bah, c'est l'expression, c'est en argot pour tout le monde, hein, les fesses.
C'est les seins, je pensais, les miches, moi.
Ça dépend des gens, en fait.
Mais moi, pour moi, ça a toujours été les miches. Quoi.
Ah oui, ah bah pour moi, c'est les belles miches.
Hey, on parlait de mes miches, s'il vous plaît. On parlait de mes fesses. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
Ah d'accord, pardon.
Tu peux continuer, ce soir.
Alors, quant à Olivier, les siennes, elles sont alvéolées. Olé !
Alvéolées. Alvéolées.
Ah, c'est pas ça. Olé, olé, alvéolées.
Ils ont des alvéoles ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dois le prendre.
T'as des coups ?
Non, c'est olé, ouais. Olé. Elles sont alvéolées. Ah, et quant à toi, Caro, les tiennes, elles sont poudré est tendance, toute circonstance.
Poudré.
Est-ce que poudré, pas fariné? Enfin, tu vois, t'es poudré.
Elles sont talquées, quoi.
Fariné, enfin voilà, t'es tendance en toute circonstance. Et Pierre Benoît, lui, il est plutôt tradition, voire rustique. Et je suis sûre que.
Oui, c'est ça.
Ce serait des topettes. Alors, parmi toutes ces belles miches, vous comprendrez bien, chers auditeurs, qu'il m'est difficile de trancher. Je n'ai qu'une chose à dire, les amis, vous êtes tous à croquer. Voilà.
Oh, c'est gentil. Wow, c'est mignon, hein, jolie chronique. Jolie question, en tout cas. Alors, on a encore une question de Nathalie, hein, qui se demande comment on fait du pain perdu.
Alors, chère Nathalie, exceptionnellement pour vous ce soir, je vais me révéler. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tout bon magicien ne dévoile jamais les secrets de cette tour de magie. Mais ce soir, pour vous en direct, et rien que pour vous, chers auditeurs, je vais transgresser cette loi. Attention, vous le voyez, ce morceau de pain ? À la une, à la deux, abracadabra, vous ne le voyez plus ? C'est normal, il est perdu !
Ok. Non, mais c'est n'importe quoi.
Non, mais quoi, ça va, quoi. Allez, hein. Il n'y a pas que Bruno ni Pierre-Benoît qui ont le droit de faire des blagues pourries. Moi aussi, je m'y mets.
Oui, mais le pain perdu, c'est super bon. C'est ma spécialité. J'adore en faire.
Eh bien, justement, mon Bruno. Hein, vous l'aurez compris, vous l'aurez voulu, la recette du pain perdu, c'est tout ça. Vous prenez une tranche de pain rassis, oubliée dans votre boîte à pain, du lait, un œuf, du sucre, vous mélangez tout ça et abracadabra, vous faites revenir dans une petite poêle à droite, à gauche, on retourne et vous avez votre dessert ou votre goûter, une belle tranche de pain perdu. Voilà, Nathalie.
Alors, j'ai quand même une question par rapport au pain perdu et j'ai un dilemme en fait. Je ne sais pas comment le manger. Est-ce que c'est un plat le soir?
Avec une
fourchette. Est-ce que c'est un plat salé? Enfin, tu vois, ou un dessert? J'ai du mal à comprendre en fait.
C'est sucré.
Ouais, c'est plus sucré.
C'est un dessert
plutôt.
Ouais, c'est plus sucré.
Je peux qu'il y ait des cuisiniers qui le fassent en salé. Ah, maintenant, on trouve de tout. Donc, il suffit d'éviter de mettre du sucre dans ta recette et peut-être tu peux en faire un plat salé. Ça peut, hein.
Et vous trouvez ça bon, du coup?
Moi, j'aime bien.
Très, très bon, avec un petit peu de miel et tout. C'est super bon.
Allez, merci, Soso. Alors, le pain a inspiré Olivier qui va parler de Lupin, la nouvelle série qui cartonne sur Netflix. Alors, quand même, si toi, Olivier, tu avais une boulangerie à ton nom, tu la nommerais au Petit Délice d'Olivier. Voici ta chronique série, Olivier.
Oui, alors je vais vous parler de. Alors, pas de Lupin, mais de Lupin, la série Lupin. Qui est sorti sur Netflix le 8 janvier dernier. Alors, on a beaucoup parlé de cette série parce que c'est une série française tout d'abord et puis elle fait un véritable carton. Alors, on parle d'un succès incroyable aux États-Unis. C'est la première série française quand même à se hisser à la première place du top 10 des contenus les plus visionnés sur Netflix. Donc, c'est la première série vraiment qui cartonne aux États-Unis. On parle même de 70 millions de spectateurs. Alors, les 70 millions, c'est un peu une extrapolation. C'est à voir que Netflix se base sur les premiers jours de visionnage. On considère un spectateur quand il a vu au moins 2 minutes du premier épisode.
Ah ouais.
Et après, donc, il extrapole sur les 2 jours et il extrapole sur les 28 jours d'après. Il se dit, ben voilà, si mettons, s'il y a 100 000 personnes qui regardent le premier jour, il y en aura peut-être 70 millions dans 28 jours. Tu vois, c'est qu'une extrapolation. Alors, faut savoir que Lupin, donc, s'est inspiré de Arsène Lupin. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, hein, tout le monde connaît. C'est une figure de la littérature populaire française. Le personnage est né en 1905, sous la plume de Maurice Leblanc. Donc, au début du XXe siècle. Moi, quand j'étais gamin, je sais que j'adorais beaucoup tous ces bouquins de Arsène Lupin. C'est un peu une littérature populaire. Beaucoup pour les enfants. Donc ça décrit le gentleman cambrioleur, immortalisé aussi d'abord en littérature et puis aussi après en série télévisée. On se rappelle tous de Georges Descrières, le gentleman cambrioleur. Et puis récemment, il y a quelques années, il y avait eu un film où c'était Romain Duris, d'Arsène Lupin. Ouais. Alors, il faut savoir que Lupin, donc il est joué par Omar Sy, c'est le rôle principal de la série Lupin. Oui, oui. Alors concrètement, c'est pas un Lupin, c'est pas une adaptation d'Arsène Lupin. On va pas le voir avec le monocle, avec le chapeau de forme. Ça se passe pas au début du XXe siècle. En fait, eh bien, dans le film, on voit un personnage qui s'appelle Hassan Diop, donc qui est joué par Omar Sy. Il est fan de Arsène Lupin. Et puis donc sa vie, elle a été bouleversée parce que son père, il y a 25 ans, est mort après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis. Il avait été accusé d'avoir volé un collier de la reine Marie-Antoinette. Et il n'a jamais volé ce bijou. Donc il va décider de venger son père. Et il va s'inspirer d'Arsène Lupin. Il est fan d'Arsène Lupin, donc il va s'inspirer d'Arsène Lupin pour faire des méfaits. Enfin, je ne vous dis pas grand-chose, mais c'est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que 5 épisodes, parce que d'ici 2-3 mois, il y aura la suite. Alors, ça ressemble, pour ceux qui ont aimé la Casa del Papel, ça joue quand même un peu sur les mêmes gimmicks, les mêmes ressorts scénaristiques. Voilà, alors on passe au premier épisode. Alors ça a été financé, à mon avis, par la mairie de Paris, parce que ça se passe au Louvre, on voit Montmartre et tout, c'est vraiment parisien à fond. Après, on se retrouve en prison, alors ça fait un peu Casa del Papel, voire Prison Break et tout, donc c'est un peu, voilà, un condensé de tout ce qu'a fait de mieux sur Netflix. Mais on est quand même captivé par le scénario. Pour un film français, pour une série française, c'est quand même pas trop mal, hein. Voilà, on se prend à sursauter. Omar Sy est vraiment très très bien dans le film. Il est assez touchant. Il passe de la comédie au drame. Vraiment très très touchant. Et puis il est accompagné quand même de personnages assez forts. Il y a quand même des actrices connues, hein. Il y a quand même Nicole Garcia. Et puis il y a aussi Ludivine Sagné qui joue sa femme, son ex-femme, dans le film. Voilà, donc, alors moi je l'ai vu en 5 épisodes. On les voit en une journée, tellement ça passe vite. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça se finit avec un énorme cliffhanger. Et puis, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir la suite d'ici peut-être le mois de mars ou le mois d'avril. Voilà, bon, je vous le conseille. C'est un. Bon, alors, c'est pas la série du siècle, mais bon, en ces temps compliqués, on est tous chez soi, ça fait du bien un petit peu de s'évader. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille. Ça s'appelle Lupin.
Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions ?
Ouais. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi ?
Moi ? Moi, j'achète le colis. Moi, ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça.
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
Bien, faut que je te demande un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons ?
25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça.
Et 25 ans, elle a piégé mon père.
Lâchez-moi !
Je veux le venger de Pellegrini.
Tout ça, c'est un jeu. Un jeu avec des règles. Et c'est moi qui les fixe.
C'est exactement ce qui est prévu.
Tu connais le coup des menottes ?
Le coup des quoi ?
Ben maintenant, tu connais.
Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé.
Tu ne demandes pas ce que t'as fait de ta nuit ?
Franchement, rien de spécial.
Oh, bien sûr.
Oh.
Ça va mieux, hein ?
Merci.
Merci. Merci Olivier. Alors on continue de dérouler le fil de l'émission. Si vous avez raté le début, pas de panique, hein, vous retrouverez bien entendu cette émission en podcast. On mettra les liens sur les réseaux sociaux. Voici maintenant celle qui appellerait sa boulangerie Loubout de Pain, en référence à Louboutin.
Mal.
C'est génial.
Excellent.
Ah, c'est bon ça, ouais.
Merci. Donc, vous l'avez reconnu, c'est
ma préférée.
Spécialiste mode et stylisme. Voici Caroline.
Bonsoir à tous.
Alors, bonsoir.
Ce soir, on va voir les questions mode, look, tendance ou les petites astuces, voilà, de mes acolytes, hein, donc de vous et de nos auditeurs aussi, puisque j'ai eu quelques questions sur Instagram. Donc c'est cool d'être suivi.
Super.
N'hésitez pas sur Tendance à me plaire ou sur mon compte. Nanana.
Ça pue.
Au passage. Voilà. Alors, première question, et pas des moindres, pourquoi le orange ne va à personne? Alors, ça m'a fait beaucoup rire comme question. C'est hyper cash, mais en même temps, c'est tellement vrai. Donc, c'est une très bonne question et on va voir ça ce soir. Et pourtant, je vais vous montrer à quel point c'est jouable, hein, quand même, pour homme ou pour femme, de porter du orange. Alors, c'est vrai que c'est difficile comme mélange, hein, parce qu'en fait, le orange, c'est un mélange de deux couleurs au final. Hein, on va parler un petit peu, je suis obligée de prendre l'accent marseillais là, on va parler un petit peu technique. Hein. Bruno, tu vas me rejoindre sur la chromatique.
Je ne vois pas pourquoi tu prends l'accent marseillais pour parler chromatique.
Je ne sais pas, pourquoi pas. En fait, on parle technique, donc il faut que je change de voix, tu vois. Donc on me parle technique.
Non, mais bon, enfin, c'est du jaune et du rouge, hein, tu ne vas pas non plus nous faire 3 heures là-dessus quand même.
Ah
ben
non.
Ouais.
Non mais Bruno, la chromatique, alors ça te parle?
Oui.
Voilà, alors, donc en fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, dans les couleurs primaires, on a le cyan, le magenta et le jaune. Donc voilà, ce sont les couleurs de base. Donc, magenta à peu près rouge, quoi, c'est facile à porter. Le jaune, couleur brute, pure, facile à porter. Mais le orange, c'est un mélange de couleurs. Et du coup, ben, c'est plus compliqué, en fait. D'un point de vue technique, c'est pas une couleur pure. Bref, le orange brut vif, c'est impossible à porter, donc on oublie. Donc il faut aller chercher en fait dans des nuances. Par exemple, pas le orange vif, donc le pêche, par exemple, sur une peau mate, c'est très beau. Par exemple, sur une peau blanche, ben c'est moche, ça va faire malade. Donc le fluo, pareil, l'orange fluo sur une peau noire, magnifique. Sur une peau blanche, eh bien, ça va faire bizarre en fait.
Il faut que ça contraste beaucoup en fait, ou pas beaucoup, par rapport à notre peau? Qu'est-ce qui est le mieux? Si c'est trop proche de la peau, ça va. C'est
si
bien,
c'est trop
c'est...
proche de la peau, non. Justement, il faut un petit peu faire le contraire, quoi.
D'accord. Donc, si on a une peau claire, il faut un orange foncé. Si on a une peau foncée, il faut un orange très clair.
Bon, moi, par exemple, Caro, qui a une peau blanche, zéro orange.
Ouais. Alors, le rouille, en fait, c'est la seule alternative. C'est une couleur qu'on trouve. Alors, c'est vrai que le nom est pas
très glam.
C'est pas très grave, mais c'est une couleur qui se fait beaucoup en ce moment et qui va à peu près toutes les carnations de peau. Parce que c'est vrai que les peaux blanches, en fait, si vous mettez du pêche ou du... Enfin, il suffit d'avoir une petite pointe de blanc, en fait, ça va vite faire malade et triste. Et voilà, ça va pas raviver la couleur de la peau, quoi. Pas très dynamique, tout ça. Donc, le rouille, et en fait, c'est ce qui se fait beaucoup, c'est une couleur éteinte, en fait. Donc, ça va vraiment à n'importe quelle carnation et homme aussi bien que femme. Alors, en homme, cette saison, on le voit beaucoup en pantalon ou en manteau, un petit par-dessus comme ça. Et pour les femmes, moi, j'aime bien en accessoire un beau foulard dans les cheveux. Tu vois, Soso, t'es châtain brune comme ça, un petit foulard rouille dans les cheveux, magnifique.
Bah, c'est drôle, j'ai jamais essayé. Il faudra qu'on tente. Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus.
Mais c'est vrai que voilà, c'est le plus adapté pour les vêtements, en gros, par catégorie. Mais c'est vrai que dans le global, l'orange, c'est... pas n'importe lequel et par petites touches, quoi. C'est une couleur délicate, quoi, oui. Allez, le col roulé. Wow. Est-il à la mode?
Ah, le col roulé. Ah, le fameux.
Ah oui. Eh bien, c'est surprenant, mais un grand oui pour le col roulé. Pour les femmes...
Ouais, tu vois, Olivier, alors tu dis que c'est moche.
Je suis mal à l'aise.
Non, mais c'est parce que ça vous rappelle votre jeunesse, les petits cols roulés que vous mettiez quand vous aviez 5-6 ans à l'école, orange et jaune. Mais non, c'est pas cela, les garçons. On parle pas du lycra, on parle de belles matières, on parle de... de coton, de laine, de choses magnifiques. Donc, c'est
ah oui. Parce que, oui, c'est vrai que nous, on se souvient du soupule, celui que quand on enlève, ça fait plein d'électricité statique.
Voilà.
Ah, ça, c'est horrible. Ça se fait plus, ça.
Non, c'est horrible. Ouais. Non, c'est horrible. On sue, ça pompe pas la sueur, on reste avec les oreilles toute la journée. Ça, c'est horrible. Il faut prendre un beau pull avec une belle matière. Donc, pour les femmes, évidemment, c'est toujours à la mode. Hein. Tous les hivers, ça revient. Un beau col roulé noir, voilà. En cachemire, si possible. C'est un petit basique. Pour les hommes, si vous avez peu de coups et si vous êtes tassé, ben vous oubliez. Mais sinon, un beau col roulé bleu marine, si vous êtes roux, avec un kilt, ça rappelle l'Écosse.
Oh. Ah oui, bon. Ça fait beaucoup de choses quand même pour avoir un col roulé quand même.
Je m'égare, j'ai trop regardé Outlander, désolé.
Non, mais c'est quand même super agréable un col roulé quand il fait froid.
Ah bah oui, ça évite en plus d'être encombré par une écharpe, etc. Puis ça met le visage en valeur. Si vous avez un beau visage, tu vois Bruno, avec tes yeux bleus, un beau petit col roulé bleu marine, là, pas mal, tu vois.
Bon bah voilà.
Donc bref, pour le col roulé, ben, c'est maintenant, parce qu'en plus on est en pleine tendance années 70, mais on choisit bien ses couleurs, pas de orange évidemment, pas de jaune, pas de marron, pas de vert, on reste dans des couleurs basiques, bleu marine, noir, etc. Voilà. Troisième question, un vieux peut-il s'habiller en jeune sans être ridicule? Alors vous êtes très drôle hein, dans vos questions. Eh bien moi je dirais un grand oui, tant que c'est assumé le maître mot du truc. On doit s'habiller comme on veut maintenant, tant qu'on se sent bien comme ça. Le principe, c'est quand même de rester un petit peu subtil et de pas être too much quoi. Si vous avez 60 ans et que vous adorez les baskets, avec une petite chemise et un petit pull de couleur, c'est beau. Mais on va éviter le jogging et le t-shirt de Jules. Ouah, wesh alors.
Bah surtout si on a pris un peu de poids, en fait. C'est surtout ça, le problème.
Et effectivement, voilà, il faut toujours penser à sa morphologie. Est-ce que ça nous met en valeur ou non? Voilà, mais si vous aimez les joggings, si vous aimez porter, allez-y. YOLO, on n'a qu'une vie, quoi.
Bien.
Alors, quatrième question, il y a de plus en plus de vêtements unisex vendus dans des rayons mixtes. T'en penses quoi, Caro? Eh bien, j'en pense que pour certaines pièces, certains basiques, c'est plutôt cool. Des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, voilà, des choses très classiques, why not? Après, je mets un bémol sur l'évolution de cette tendance, car au final, la morpho féminine est quand même très différente de la morpho masculine. Donc déjà, il n'y a pas un corps de femme qui est similaire à un autre corps de femme. Pareil pour les hommes, un corps, c'est aussi une histoire. Donc c'est vrai que je vous parle souvent de morphologie, mais c'est des trucs très globaux au final. Mais il y a autant de corps que de personnes, et c'est déjà assez compliqué, je trouve, de trouver quelque chose qui nous va parfaitement. Donc voilà, moi je mets un petit bémol, parce que j'ai juste un petit peu peur d'un effet de masse, un peu uniformisation de la population, quoi. Voilà.
Oui, mais par contre, c'est assez désagréable dans les magasins, en fait, parce que quelquefois, on ne sait pas si on est dans le rayon femme ou homme.
Ouais.
Et on cherche à dire, ah tiens, ça nous plaît. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est au rayon femme. Et là, du coup, moment de solitude, et on essaye de partir un petit peu en crabe pour retrouver le rayon homme.
Ah, tu trouves? C'est vrai que c'est... Bah après, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se confondre. Il y a des choses qui se prêtent très bien, aussi bien vestiaire femme que homme. Après,
donc d'avoir un rayon qui est au moins pour les deux, ça peut être sympa aussi.
Ça peut être sympa, mais ça sera pas jouable pour tous les articles, quoi.
Ouais. Les soutiens-gorge moins, par exemple.
Voilà, ça va être compliqué. Après, hein, tu peux essayer quand même. Ça
se prend. On fait belle miche.
Bah oui, c'est ça, oui.
Voilà, alors ensuite, question d'un gros fan de basket comme moi, pourquoi la basket s'est démocratisée? Alors, je pourrais parler sneakers des heures et des heures, moi je suis addict, donc c'est un incontournable la basket de nos jours, n'est-ce pas Raph avec tes Adidas Gazelle?
J'adore mes gazelles.
N'est-ce pas? Eh bien la basket phare du moment, c'est la Nike Air Jordan, bon, sorry. Mais
non, c'est un choix.
Et elle a contribué à, en fait, sortir la basket des terrains de sport. Pourquoi? Petite historique, parce que dans les années 90, les stars qu'on adorait, c'était des rappeurs, des chanteuses, mais est venue la vague des joueurs de basket, en fait. La grosse star de l'époque, c'était qui? C'était Michael Jordan.
Michael Jordan.
Et évidemment, la star des Chicago Bulls. Et donc, Nike a sauté sur l'occasion pour collaborer avec lui et créer sa première paire à lui de basket. Et donc, il a créé la Air Jordan 1. Et il faut savoir que la première année de sa mise en vente, Nike a fait 100 millions de dollars de vente, ce qui est énorme. Donc c'est comme ça qu'est venue la collaboration basket, joueur de basket, etc. Et pour l'anecdote, c'est quand même une paire que voulait porter Michael Jordan pour tous ses matchs. C'est normal, c'est sa paire, il a choisi la couleur, la forme, etc. Et la NBA l'a interdit en fait, à cause de la couleur. Elles n'étaient pas réglementaires, le rouge, le noir, c'était pas du tout réglementaire sur un terrain, il fallait du blanc. Donc la NBA a menacé Michael Jordan d'une peine de $5,000 d'amende pour chaque match joué avec cette paire. Il faut savoir que Nike a payé toutes les amendes qui ont suivi. Donc Michael Jordan a gardé sa paire et ça a fait un tollé historique et ça a fait que cette basket s'est devenue un vrai mythe. Donc voilà, la basket elle s'est démocratisée parce que nos idoles ont changé. Maintenant c'est les stars du foot, c'était les stars du basket dans les années 90. Et du streetwear, ben, on en voit partout.
Oui, mais alors techniquement, c'est pas quand même la même chose. Une chaussure de sport, une chaussure pour courir, la basket, c'est vraiment très très spécifique comme coupe. Ben, c'est pas n'importe quelle chaussure. On mélange un peu tout dans les chaussures.
Oui, maintenant tout est mélangé parce qu'en fait, il y a les baskets qui se sont un petit peu techniquement améliorées pour courir, pour tel sport, pour etc. Il y a vraiment des technologies de dingue maintenant.
Donc dans le terme basket, en fait, tu mets toutes les chaussures de sport.
Ouais.
Pas la seule chaussure pour les baskets.
À la base, toutes les baskets qui sont devenues des baskets de ville et de street, comme la Adidas Gazelle, etc., à la base, c'était vraiment des chaussures utilisées pour faire un vrai sport. Comme la Converse, en fait. La Converse, à la base, c'était une des premières baskets des années 50 pour faire du basket. C'était la plus souple et celle qui tenait mieux à la cheville, en fait. Et elles se sont un peu popularisées et on les porte à la rue. Mais à la base, c'était vraiment des baskets pour le sport.
Eh bien, merci, hein, Caro. Alors, vous pouvez continuer à envoyer des questions à Caro via ton compte Instagram, tu le disais tout à l'heure, hein, pour de prochaines émissions. Toutes les questions qui vous passent par la tête autour de la mode et du style. Alors, il est temps de retrouver maintenant Bruno pour sa chronique « C'était mieux après ».
Alors, si vous êtes chez Free pour votre téléphone portable, vous utilisez peut-être le Wi-Fi gratuit quand vous êtes en déplacement. Ça vous arrive ?
Oui.
Vous savez, chaque box client Wi-Fi de la marque mettait à disposition de ceux qui passaient à proximité de l'appartement d'un client Free un accès au Wi-Fi en parallèle de son réseau domestique. Ainsi, toute la ville était presque couverte de ce réseau gratuit et ça vous économisait d'utiliser votre data de 4G. C'était bien pratique, mais voilà, c'est fini. Free considère que tout le monde a maintenant de gros forfaits de données et qu'il est inutile de se connecter au Wi-Fi quand on se déplace. Du coup, les prochaines box ne proposeront plus ce service gratuit et le réseau gratuit Free Public va donc petit à petit disparaître.
C'est dommage.
En 2021, Apple va sortir plein de nouveaux produits, hein, donc cette année, et donc sortir peut-être de l'AirTags. Alors, c'est un tracker GPS. Alors pour l'instant, quand vous avez perdu par exemple vos clés, vous avez des gadgets qui vous permettent de les faire biper quand ils sont à quelques mètres. Mais là, c'est carrément le GPS. Ainsi, vous pouvez associer n'importe quel objet, ou même personne, à un tracker et vous pouvez savoir partout où il est sur Terre à tout moment. Alors, en sortie possible, depuis le temps, on parle aussi des Apple Glass. C'est des lunettes connectées à réalité virtuelle. Alors, il y en a déjà pas mal de modèles de toutes les marques. Ça a été à chaque fois des échecs. Mais là, apparemment, Apple aurait trouvé des bonnes idées pour rendre ce produit utile. Donc, à voir donc si cette année, on va voir ça. Il y a Amazon aussi qui est sur le terrain, qui va sortir les EcoFrame, pareil, des lunettes connectées. Donc, à suivre peut-être. Alors, on a aussi reçu, il y a quelques semaines, une fan de Lego. Vous vous souvenez ? Et l'émission Lego Master a cartonné sur M6.
Oui.
Eh bien, j'ai une petite nouveauté pour vous. Vous allez pouvoir offrir des fleurs en Lego.
Oh, j'ai vu.
Voilà, 756 pièces de toutes les couleurs pour faire un beau bouquet. Voilà, vous pouvez même faire un bonsaï avec un kit de 878 pièces. Voilà, à offrir, c'est pas mal, hein. c'est beau. Hein.
C'est excellent, donc, moi j'aimerais trop qu'on m'offre ça, c'est bientôt la Saint-Valentin en plus.
Bah voilà, donc ça coûte de... Oui, c'est solide, c'est dur, puis ça fane pas.
Ouais. C'est beau.
Ça coûte de 12 à 50 euros, l'effet est vraiment sympa. Et en plus, donc, ça se démonte et remonte à l'infini. Plus il y a d'images par seconde, plus un film nous semble réel. Avec le cinéma sur pellicule, on était à 24 images par seconde. La télé est montée à 25. On est maintenant à plus de 50 images par seconde dans les vidéos et au cinéma. Eh bien, à ces vitesses, la fluidité, ça fait hyper réaliste hein, pour les images. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images aussi rapides. Mais là, avec le nouveau casque virtuel Oculus, on arrive à 90 images par seconde. Et là, autant dire que les actions qui sont rapides, eh bien, sont vraiment très, 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 très nettes. Et ça fait vraiment une fluidité bluffante. Voilà, c'est Facebook qui produit ce produit. Et on rappelle toutefois qu'avoir des écrans à quelques centimètres des yeux avec ces casques, c'est dangereux. Donc, à utiliser quand même avec modération.
Okay.
Attention, méfiez-vous des robots aspirateurs. Ils peuvent vous espionner. Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas de micro, ils n'ont pas de caméra, donc on ne va pas avoir beaucoup d'infos. Eh bien, détrompez-vous. C'est vrai que ces robots n'ont que des rayons infrarouges pour se repérer dans l'environnement. Sauf que des hackers ont réussi, à l'aide de ces rayons, à retranscrire une conversation. En effet, le fait d'émettre un son qui rebondit sur le mur produit des variations perceptibles par les capteurs infrarouges qui sont utilisés par les robots aspirateurs. Cette technique est utilisée depuis longtemps en espionnage, mais là, le robot, il est parmi nous, au milieu de la pièce. Et donc, imaginez que des pirates russes s'attaquent à l'aspirateur de Sonia. Ils l'entendraient chanter toute la journée. Non, vraiment, c'est dangereux, hein, surtout pour les espions. Ah, alors attention, voilà, y a Raphaël qui s'agite. Il a une info importante, c'est sur la boulangerie. Attention, tu voulais dénoncer quelque chose, Raphaël? Alors, je te laisse un petit peu de ma chronique. Bon, oui, vas-y, donne-moi ta fiche. Alors, attention, top dénonce, Raphaël, contre les inégalités. Prix d'un Paris-Brest, boulangerie 2 euros, SNCF 40 euros, halte à l'arnaque du gouvernement. Merci Raphaël pour cette information importante.
Je n'avais pas compris.
Très, très en forme Raphaël, je n'ai pas mieux, je vais m'arrêter.
Oui, c'est bien. Bon, écoute, merci hein, Bruno pour ces petites blagues. Merci les amis chroniqueurs, merci à tous.
Merci.
Au plaisir.
À bientôt.
J'en prendrais bien une petite chocolatine.
Ouais, bah oui, carrément.
Non, ça donne pas au chocolat.
En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci donc aux chroniqueurs et à notre invité du jour et à nos invités du jour, parce qu'ils étaient deux. Si vous avez aimé nous écouter, parlez-en autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du live, on se retrouve dans deux semaines avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. On ne pouvait pas se quitter sans la musique, les petits pains au chocolat de Joe Dassin. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt les amis.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou. Les nuages volaient pas, il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, 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 aïe. Tout en blanc, quelle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Comme papa. fête, il suffit de si peu. D'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.